Je voudrais continuer sur le thème de semer et récolter. Et en fait, j'aimerais baser ce message sur Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et après ce qu'on a chanté ce matin, j'ai juste envie de dire, Seigneur, je me rends, que ta volonté soit faite dans ma vie et pas la mienne. Le dernier message, qui date déjà d'un moment, j'avais parlé semer et récolter, mais dans la dimension des finances. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vous avais donné un exercice pour comprendre que ce qui nous arrive, la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus, c'est souvent le fruit aussi de nos actions ou de nos inactions, et que nous avons un rôle à jouer dans ce qui nous arrive. Alors, je ne veux pas dire que tout ce qui nous arrive, on l'a semé, parce qu'on a prié tout à l'heure aussi pour des malades. Nous sommes dans un monde où il y a des attaques qui viennent contre nous. Il y a aussi un ennemi qui veut notre mal. Mais s'il y a des vents contraires, nous voulons souffler le vent de Dieu qui est plus puissant. Mais j'aimerais quand même dire, dans Galates 6, 7, il est dit, on récolte ce que l'on a semé. Alors c'est dans le bon et dans le mauvais sens. Hein. Si on sème des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Si on sème des mauvaises choses, on récolte des mauvaises choses. Et en fait, dans la formation que je fais avec Pierre Bonin, la question nous a été posée, dans quelle saison êtes-vous? Et j'ai réfléchi, et finalement ce qui est venu, je suis dans la saison des récoltes. Donc c'était en mois de janvier 2017. Je suis, pour ma vie, hein, dans la saison des récoltes, des mauvais fruits, des mauvaises choses que j'ai semées. Et c'était quand même difficile. Oh, oh. Et en fait, l'année 2017 a été une année de récolte un peu amère, et où Dieu a pu remettre les choses en place dans ma vie. Donc je vous avais donné cet exercice, vous rappelez, de semer des tomates, pour voir qu'il y a des actions qui prennent du temps, il y a une chronologie, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez gardé des tomates pour reprendre la semence. Alors ce qui était vraiment intéressant, après ce message, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui ont dit « Werner, après ton message, on a semé des tomates et maintenant elles sont déjà grandes comme ça. » Puis pendant l'été, j'ai eu des photos pour me montrer « Regarde les tomates !» Alors j'étais là, je me suis dit « Mais quelle image magnifique !» Il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent une parole, ils rentrent chez eux et ils la mettent en pratique. Merveilleux. Alors c'était une image par rapport à des tomates. Alors je ne veux pas juger votre spiritualité au fait que vous ayez semé ou pas des tomates. Mais en tout cas, en été, ceux qui n'ont rien semé n'avaient pas de tomates. Vous êtes d'accord ? Nous ne sommes pas tous appelés à semer des tomates. Mais en tout cas, ça m'a vraiment frappé cette image. Quand on vient à l'église, on reçoit des choses, et ce matin on a déjà reçu beaucoup de choses. Certains ont été touchés personnellement, dans leur corps, dans leur cœur. Et on rentre à la maison et on met les choses en pratique. C'est comme ça que ça devrait se passer. Alors j'aimerais continuer dans ce sens, de manière plus générale, pas juste par rapport aux finances. Alors on est d'accord qu'on peut faire l'entretien de sa voiture au garage régulièrement et tomber en panne quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait jamais de révision sur sa voiture, on va tomber en panne. On peut signer en bas pour la garantie. Alors, cette image prophétique qui m'a poursuivi. En fait, quand nous venons à l'église, nous recevons des choses, nous entendons la parole et nous rentrons à la maison avec un sachet de graines. Nous nous trompons nous-mêmes quand on pense que parce qu'on l'a entendu, notre vie a changé. Et alors on entend beaucoup de choses, dimanche après dimanche, et on pense avoir changé, mais en fait non, on a toujours laissé sa chair à la maison. Et finalement on se retrouve avec un mur immense avec plein de sachets de semences, mais il n'y a pas de fleurs dans le jardin. Et donc, je me suis imaginé me promener, il y a de la visite qui vient. Ah tiens, la semence, ah, ah ouais, ah pas mal, ça c'est le pardon. Ah ouais, je me souviens de ce message du pardon, tu sais, les gens qui sont en prison et qui pardonnent et qui sont libérés, ouais, ouais. Ah, et tu as pu semer, c'est grave. Ah non, non, tu sais, moi, les gens, ils m'ont fait des trucs tellement graves, c'est pas la peine. Ah, puis là, il y a un autre truc, attends, la confiance en Dieu, ouais, génial. Mais le message, je te dis pas. Le gars qui a donné ce message, c'était pas moi. Mais, mais formidable. Mais bon, tu sais, la vie est dure. Hein, la conjoncture économique, etc. Les nouvelles, c'est pas évident. Hein. Donc, je vous fais un peu. C'est un peu une paraphrase de la parabole du semeur. Mais quand nous sortons du culte, nous avons un sachet de graines. Et nous sommes responsables de le semer, ou pas. Mais en tout cas, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre la transformation. Semer, c'est mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est obéir. Et vous vous souvenez de cette parabole de celui qui, le sage qui construit sa maison sur le roc, le fou qui construit la maison sur le sable. La différence, c'est simplement, les deux ont écouté la même parole, simplement il y en a un qui l'a mis en pratique, l'autre pas. Donc nous avons cette responsabilité de semer ce que nous avons reçu, afin de pouvoir être transformés, comme nous avons lu tout à l'heure, par le renouvellement de l'intelligence. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je ne pense pas de manière naturelle comme Dieu pense. Et j'ai besoin d'être transformé. Et donc, c'est cette semence que nous recevons que nous mettons en pratique dans l'obéissance. Je donnerai tout à l'heure un exemple. Mais nous devons être transformés pour pouvoir être agréables au Seigneur. Et sans obéissance, il n'y a pas de transformation. Et sans transformation, il n'y a pas de fruit agréable. Donc, vous recommencez avec l'histoire de la tomate. Si on ne sème pas, on n'a pas de tomates en été. Et en été, on ne peut pas garder de la semence pour l'année d'après. Alors je fais une parenthèse sur l'obéissance. Ça m'a frappé en lisant le texte qui était donné un jour dans le pain du jour, qu'on lit plusieurs maintenant, avec le pins. Donc c'est une courte lecture, mais c'était l'épisode où Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y a Pierre qui sort son épée et qui va couper l'oreille d'un serviteur, d'un soldat. Et en fait, je me suis d'un coup imaginé cette scène. Je me suis dit, Pierre, il était certainement en train de penser au chant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et hop, il y va. Et en fait, Jésus lui dit, non, Pierre, range ton épée. Là, il s'agit d'obéissance. C'est le moment d'obéir, et je vais obéir jusqu'au bout. Et là, nous avons besoin aussi de discernement. Il y a des temps de proclamation, mais il y a des temps d'obéissance. Et nous devons proclamer quand il faut proclamer, mais quand nous devons obéir, aucune proclamation ne pourra remplacer l'obéissance. Et c'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémané. Il a obéi au Père, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Alors j'aimerais illustrer cette démarche de semer et de récolter en exemple personnel. Donc vous imaginez que vous recevez quelque chose le dimanche, on a parlé de pardon, etc. Et là, vous décidez de mettre en pratique. Donc moi, c'était « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça, c'était mon sujet de culture. Donc j'ai décidé de semer cette réalité dans ma vie. Donc j'étais assez à l'aise quand même parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis finalement la vie n'était pas trop dure encore, donc c'était facile. Et je vous rappelle même qu'ici vous avez prié pour mes champs. Alors ceux qui ne savent pas, je suis agriculteur, hein, si des fois. Donc vous avez prié pour mes champs, c'était je crois en 2016, non 2015. En 2015, et à deux reprises, il y a eu des orages providentiels qui ont arrosé mes cultures. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est que la direction venait de Guebwiller jusqu'à chez nous, à Dessenheim, alors que c'est pas le trajet habituel des orages. Nous, on attend toujours que ça vienne de Belfort, enfin que ça vienne par là. Et j'ai deux sites que je cultive, et les deux sont dans l'alignement. Et donc, des orages, alors que à 5 km au nord ou au sud, il n'y avait rien. Et donc j'étais reconnaissant, Seigneur, merci, merveilleux. Donc vous imaginez, l'Éternel est mon berger, c'est vraiment cool. Et en fait, ça c'était l'entrée en matière, c'était pour dire, voilà ce que Dieu peut faire. Et un peu c'est le rôle des miracles, c'est pas, les miracles ne nous changent pas, ils ne nous transforment pas, mais les miracles nous disent, voilà, le cœur de Dieu pour toi. Voilà comment Dieu peut agir en ta faveur. Et ensuite, il y a eu une année difficile, et puis une année même pendant la période d'irrigation. Mon matériel est tombé en panne. Et là, je commençais à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même pas un orage quand même, ça aurait été rien du tout. Et non, il n'y a pas eu d'orage, et puis mes cultures ont souffert. L'irrigation était en panne. Et en fait, là, on est dans la deuxième phase. On est en train d'expliquer à Dieu comment on voit les choses. Si on était lui, Seigneur, l'Éternel est mon berger, mais là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu aurais dû... Vous voyez, c'est comme ça qu'un berger aurait fait. Et on commence à expliquer à Dieu ce qu'il doit faire. Et là, on commence à rentrer dans la phase de transformation, parce que Dieu ne nous lâche pas, et il ne va pas dire, ah ouais, vraiment Werner, excuse-moi, j'ai pas vu la chose du tout, j'ai pas vu que c'était si grave. Et donc ça c'est une phase qu'on doit vite passer parce que sinon, en fait Dieu veut nous conduire dans la vérité. Et dans cette transformation, nous avons besoin d'être confrontés à la vérité. Alors j'ai retenu deux aspects par rapport à la vérité l'année dernière et ça m'a vraiment aidé. Le premier aspect c'est que Jean 8 verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et ça, on aime bien ce verset, mais en fait, la vérité, elle ne nous tombe pas dessus, pouf, et tu es libre. Ce qui est avant cette phrase, c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ça dépend un peu des traditions, des traductions. J'ai un peu regardé toutes sortes de traductions pour voir comment que c'est dit. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute qu'il y a un lien entre les deux choses. Jésus dit ces deux choses dans une même phrase. Demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, de demeurer dans la parole. Ça veut dire la lire, ça veut dire l'étudier, ça veut dire nous laisser interpeller par la parole. Et je fais encore une parenthèse, c'est quand Denis est venu me proposer ce club des amis de la Bible, où il faut lire la Bible tous les jours, on s'engage à lire la Bible tous les jours, ça prend un quart d'heure. Et j'étais un peu étonné, j'ai dit, Denis, est-ce qu'on lit pas plus que ça? Et apparemment, c'est pas toujours évident que les chrétiens lisent la Bible, mais c'est vraiment un point de départ essentiel de pouvoir méditer la parole, de la lire. Et Après, je me rends bien compte qu'on a chacun nos méthodes de lecture, on a des plans de lecture, on a des thèmes de lecture. Mais ce qui est bien avec ce club des amis de la Bible, c'est qu'on lit tous la même chose à un moment donné. C'est des petites choses, c'est même pas des chapitres entiers. Donc c'est assez facile pour se positionner la journée. Donc une chose, la vérité ne nous tombe pas dessus juste comme ça, mais on doit être des disciples de Jésus. On doit être dans sa parole pour recevoir la vérité. La deuxième chose que j'ai entendue par rapport à la vérité, c'est que la vérité nous rend misérables avant de nous rendre libres. Et ça, je l'ai bien vécu l'année dernière. C'est qu'en fait, Dieu nous révèle d'abord la vérité sur nous-mêmes. Et là, on commence à dire, « Ok, Seigneur, je crois que je ne vais plus te donner de leçons, comment il faut faire. » Et quand Dieu nous a révélé la réalité de nos vies, ensuite, il peut restaurer les choses, mais il peut aussi nous conduire dans sa réalité à lui. Et nous sommes souvent là, enfin moi j'étais comme ça, parce que c'était dans cette phase où je cherchais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Donne-moi tes plans, donne-moi les projets. Et je ne recevais rien. Et j'ai compris là que d'abord Dieu devait faire du ménage dans ma vie. Mes mauvaises conceptions, mes mauvais engagements, mes mauvaises relations, mes toutes sortes de mauvaises choses. Et bien sûr, cela nous conduit à la repentance et à l'obéissance. Donc, Dieu révèle ensuite seulement la réalité de son royaume. Et c'est à ce moment-là qu'il peut nous parler des projets pour notre vie. Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi de vouloir mettre des choses en pratique. Et ça nous arrive, on a un super culte. On rentre à la maison, parfois on a déjà oublié, ça c'est quand le malin vient dérober. Mais parfois on est super motivé par le culte et on rentre à la maison et tout de suite il y a une engueulade, un truc, bienvenue dans la réalité. Et puis on se dit, bon, c'était bien le culte, mais bon, dans la réalité c'est moins bien. Ça c'est quand ça tombe dans les rocailles. Ensuite c'est... On est motivé, on persévère, mais au bout d'un moment quand même, ça, c'est quand même compliqué, on ne voit pas les résultats. Et donc on arrête aussi, donc c'est les épines qui étouffent. Et dans la bonne terre, finalement, c'est là où on persévère. Et je vous invite vraiment à persévérer quand vous avez semé quelque chose, de continuer, de prendre le temps, de persévérer jusqu'à ce que vous voyez les fruits. Et donc par exemple, pour cette notion de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, j'ai vraiment appris l'année dernière à savoir ce que c'est un peu plus. Je ne sais encore pas tout, mais vraiment de ne manquer de rien, c'est que Dieu sait ce dont j'ai besoin. Et parfois, c'est difficile ce dont j'ai besoin. Mais on l'a chanté aussi ce matin. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce qui m'a beaucoup encouragé, c'était... l'intimité avec le Seigneur. Parce que quand on ne voit pas les choses se réaliser, on peut dire finalement c'est pas pour moi, ou alors on peut persévérer en disant c'est pour moi. Seigneur, je viens devant toi, je viens dans ta proximité, dans ton intimité, et je veux vivre jusqu'à ce que je vois les choses se réaliser. Et nous avons eu un super message il y a 15 jours sur l'intimité avec Jésus de Patrick Martinet. Et ce message m'a impacté, je me suis dit, oui, vraiment, Seigneur, moi, je veux vivre cette intimité encore plus. Et non pas prendre comme référence ou comme élément de mesure ce que je vois, mais l'intimité du cœur avec Jésus. Alors, toute l'année 2017, j'ai vécu, dans mon travail, hein, mais aussi dans ma vie personnelle, mais dans mon travail, cette intimité où j'ai parlé avec Jésus, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois faire ça ou ça? Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose? Et aussi par rapport à mes investissements. Des conseils, Dieu donne des conseils. Voilà ce que, comment tu as investi. On a fait le compte avec mes investissements, comment j'ai géré les choses. Puis il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Et ça a été toute l'année 2017 des petites choses où j'ai pris des décisions d'obéissance. Et à la fin de l'année, je me suis retrouvé avec un bilan qui était positif, qui était bon, alors que la conjoncture n'a pas forcément évolué par rapport à l'année d'avant. Mais quand je suis revenu de chez mon comptable, j'étais vraiment heureux. Je me dis, Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle. Tu ne fais pas des miracles pour nous sortir de notre pétrin parce que nous n'avons pas été conséquents. Et si en 2000, c'était après en 2016, je me suis dit, Dieu va me donner une récolte miraculeuse. J'ai d'ailleurs dit à Huguette, je rêve d'une récolte où je suis obligé de faire venir des huissiers pour qu'ils viennent constater effectivement que c'est juste. Bon, on peut rêver, hein. Mais en fait, ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, Dieu voulait m'apprendre que ce n'est pas celui qui vient solutionner nos problèmes alors que nous devons apprendre à gérer autrement. Et donc j'ai appris à gérer mieux que ce que je faisais avant. Alors, deux petites choses pour vous donner des idées aussi par rapport à comment mettre en pratique. Quand je suis sorti, enfin par rapport à l'intimité avec le Seigneur, je commence à faire des choses pratiques pour que je visualise dans ma tête que Jésus est là. Je suis allé vers mon hangar et puis avant d'ouvrir le hangar, je dis Seigneur, je veux te laisser entrer en premier. Et puis je viens après. Je veux passer cette journée avec toi. Quand je suis parti avec mon tracteur, j'ai déplié le siège passager. Seigneur, viens avec moi. C'est des petites choses, ça peut paraître ridicule, mais ça nous marque dans notre tête. On dit, c'est vrai, Jésus, tu es là. Et quand Jésus est assis dans le siège passager, tout est possible, ouais. Et il y a des choses qui ne sont plus possibles. Voilà, donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'était par rapport au message de la semaine dernière, de Saint-Esprit en nous et sur nous. Alors je suis allé chez le coiffeur cette semaine. Je me dis, Seigneur, si le Saint-Esprit est sur moi, ça doit faire quelque chose à la coiffeuse. Voilà. Et puis donc je suis allé chez le coiffeur et puis. En fait, j'avais cette histoire en tête d'un ami qui m'avait raconté qu'il est allé chez sa coiffeuse et quand elle a posé les mains sur sa tête pour le coiffer, elle a eu un mouvement de recul, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, quand je touche votre tête, je ressens le même apaisement que quand mon grand-père me serrait dans ses bras. Alors je dis, c'est le père en moi qui fait ça. Alors moi, je me suis dit, peut-être un truc comme ça, quoi. Mais je vais continuer. Chaque fois, je vais dire, ça change les choses. Si je vais dans un magasin, le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit sur moi, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et déjà dans mon cœur, mais aussi dans mon approche avec les situations. Alors, je vous encourage vraiment ce matin, tout ce qu'on a reçu déjà dans la louange, dans les temps de prière, rentrez chez vous, mais ne suspendez pas le sachet, mais semez dans l'obéissance, afin que nous voulons vraiment nous laisser transformer par le Seigneur. Voilà. Alors, bon, j'ai quand même été un peu long. Merci de votre patience. Oui. Alors, j'aimerais juste prier encore. Merci Seigneur, parce que tu es le divin jardinier. Merci pour tous les fruits que tu en réserves pour nous. Merci parce que tu as donné ta vie afin que nous puissions rentrer dans ta réalité, dans cette intimité avec toi, mais aussi dans tes ressources, dans ta façon de voir. Merci Seigneur parce que tu nous donnes les capacités de gérer notre vie. Tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes la force, tu nous donnes aussi le discernement. Et nous voulons ce matin mettre en pratique les choses que nous avons reçues. Et Seigneur, nous te donnons aussi l'autorisation de revisiter notre jardinerie, et de ressortir les sachets que tu veux vraiment voir dans nos vies, les semences que tu veux nous voir semer prioritairement, Seigneur, que vraiment nous puissions aller de l'avant et être transformés de gloire en gloire à ton image, Seigneur. Nous voulons te remercier, nous te bénissons, Seigneur, et encore une